Chapitre 57. Olympos. Je ne me souviens pas qu'Arès et Héphaïstos aient utilisé la técu pour m'emporter loin du grand hall, mais c'est de toute évidence ce qu'ils ont fait. La pièce, la cellule où ils m'ont jeté est sise au dernier étage d'un bâtiment d'une hauteur impossible sur le flanc est d'Olympos. Ils ont scellé la porte derrière eux, il n'y a pas de fenêtre, mais le mur s'ouvre sur un balcon dominant de plusieurs centaines de mètres à un précipice vertigineux. Au nord s'étend l'océan, que la lumière de l'après-midi part des chaudes couleurs du bronze, et loin, très loin à l'est, se dressent les trois volcans que j'identifie désormais comme martiens. Mars! Toutes ces années! Sainte Mère de Dieu! Mars! L'air glacé me fait frissonner. Je vois mes bras et mes cuisses nues se cribler de chair de poule, et j'imagine le même spectacle sur mon derrière nu. Le marbre me frigorifie la plante des pieds. Ils m'ont tiré les cheveux avec une telle violence que j'en ai mal au crâne. Ils m'ont capturé et dépouillé avec une telle facilité que j'en ai mal à l'amour-propre. Pour qui me prenais-je? Ça faisait si longtemps que je fréquentais des dieux et des super-héros que j'avais oublié que, de mon vivant, je n'étais qu'un type ordinaire. Ce que je ne suis même plus maintenant. Mes jouets me sont montés à la tête, je crois bien. Le harnais de lévitation et l'impacto-armure, le bracelet de morphing et le médaillon TQ, le micro directionnel et les lentilles avec zoom, le taser et le casque d'Hadès. Toute cette panoplie à la con. Grâce à elle, j'ai pu jouer au super-héros pendant quelques jours. C'est fini maintenant. Papa m'a confisqué mes joujoux. Et papa est en colère. Je me rappelle la bombe de Manmuth et, poussé par l'habitude, je lève le poignet pour regarder l'heure. Oh, merde, je n'ai même plus de montre. Mais quelques minutes à peine doivent me séparer du moment où le fameux engin doit exploser. Je me penche sur le balcon, mais celui-ci donne du côté opposé à la caldeira, de sorte que je ne verrai rien du spectacle. L'onde de choc renversera-t-elle cet édifice ou bien se contentera-t-elle de l'embraser? Un nouveau souvenir remonte à la surface, des hommes et des femmes condamnés sautant du haut des tours jumelles en flammes. Et je ferme les yeux et me masse les tempes dans une vaine tentative pour chasser ces images de cauchemar. Elles n'en deviennent que plus nettes. Bon sang, songeais-je. S'il m'avait laissé vivre quelques semaines de plus, si je m'étais laissé vivre plutôt que de vouloir forcer le destin avec mes joujoux, peut-être aurais-je fini par me rappeler toute ma vie. Et même ma mort. Derrière moi, la porte s'ouvre à grand fracas et Zeus pénètre dans ma cellule. Je quitte le balcon pour aller l'affronter face à face. Recette pour perdre son estime de soi. Retrouvez-vous tout nu face au dieu des dieux, lequel est vêtu de ses cuissardes, de ses jambières dorées et de son armure d'apparat, sans oublier la différence de taille naturellement. Car enfin je mesure 1m73, ce qu'on appelle une taille moyenne, comme je le serinais à mes proches, y compris à mon épouse. Mais ce jour-là, Zeus en fait entre 3 et 4. Cette putain de porte aurait laissé passer un joueur de football américain porté en triomphe par ses coéquipiers, et il est obligé de se baisser pour la franchir. Il la referme vivement, je vois qu'il tient mon médaillon TQ dans son poing massif.
« Scoliast Hockenberry, »
dit-il en anglais.
« As-tu idée du foin que tu as fait ?»
Je m'efforce d'arborer un air défiant, me contente de maîtriser les tremblements de mes jambes. Je sens mon pénis et mon scrotum se réduire à la taille d'un bâton de craie et de deux billes sous l'effet du froid et de la peur. Comme s'il avait remarqué cette réaction, Zeus me toise avec mépris.
« Mon Dieu, vous étiez vraiment hideux, vous autres humains à l'ancienne »
gronde-t-il.
« Comment peut-on être à la fois décharné et bedonnant ?»
Je me souviens que Suzanne comparait mes fesses à une paire de melons, mais au moins le faisait-elle avec affection. « Comment se fait-il que vous parliez anglais » dis-je d'une voix chevrotant.
« Tais-toi !»
rugit le père des dieux. D'un geste brusque, Zeus m'enjoint de retourner sur le balcon et m'y suit. Il est si gigantesque que j'ai tout juste la place de me tenir à ses côtés. Je me rencogne et m'efforce de ne pas regarder vers le bas. Si le dieu des dieux furieux souhaite se venger, il lui suffit de m'attraper par la peau du cou et de me jeter dans le vide. Je resterai bien 5 minutes à hurler en moulinant des bras.
« Tu as blessé ma fille !» gronde Zeus. Laquelle ? Songeais-je au désespoir. Je suis coupable d'avoir voulu tuer Aphrodite et Athénée. Mais je pense que c'est le sort de cette dernière qui le préoccupe. Athénée a toujours été sa préférée. Mais ça n'a sans doute aucune importance. Vouloir la mort d'un dieu, vouloir renverser les dieux en général, voilà un crime passible de la peine capitale. Je jette un nouveau coup d'œil en contrebas. Je vois l'escalator de cristal sinuant sur le flanc embrumé du volcan. Mais les ruines calcinées des baraquements scoliastes sont invisibles à cette distance. Seigneur, que la terre est basse!
Sais-tu ce qui va arriver ce jour, Hockenberry?
Me demande Zeus, très certainement pour la forme. Il étend les bras au maximum et étale ses doigts. Ils sont deux fois plus longs que les miens. Sur la rambarde métallique. Non, dis-je. Il se tourne vers moi et me toise à nouveau.
Cela doit te troubler grandement après toutes ces années de sagesse scoliaste, gronde-t-il. Toi qui savais toujours ce qui allait se produire, alors même que les dieux l'ignoraient. Tu devais te sentir l'égal du destin.
En fait, je me sentais misérable, répliquai-je. Zeus opine, puis il me désigne les chars qui prennent leur essor depuis le sommet d'Olympos. Il y en a des centaines.
Cet après-midi, nous allons anéantir le genre humain,
déclare-t-il.
Non seulement ses poseurs grecs et troyens, mais aussi tous les êtres humains de l'univers.
Que répondre à cela ? Voilà qui me semble un tantinet excessif, articulai-je enfin. Cette bravade serait plus convaincante si ma voix ne tremblait pas comme celle d'un petit garçon. Zeus contemple les chars s'élevant dans les cieux et les dieux et les déesses caparaçonnées d'or qui attendent de les monter.
Cela fait des siècles que Poséidon, Arès et les autres me tarabustent pour que j'élimine ce virus qu'a l'humanité.
Reprend Zeus, sans doute en grande partie pour lui-même.
Nous avons tous des raisons de nous inquiéter. Cette ère de l'héroïsme que tu as vu fleurir à Ilium est de nature à inquiéter un dieu qui se respecte, vu la fertilité des unions entre les deux espèces. Tu as sûrement une idée des tripotages génétiques auxquels nous nous sommes livrés pour obtenir des monstres tels qu'Héraclès et Achille. Tripotage au sens littéral du terme.
Pourquoi me racontez-vous tout ça ? Demandai-je. Zeus me regarde vraiment de haut. Il hausse les épaules, ces épaules qui me dominent de 2,50 m.
Parce que tu seras mort dans quelques secondes, ce qui me permet de te parler librement. À Olympos, scoliaste Hockenberry, il n'existe ni ami sincère, ni allié fidèle, ni compagnon loyal. Uniquement des intérêts bien compris. Mon intérêt est de rester seigneur des dieux et maître de l'univers.
Ça doit être un boulot à plein temps, dis-je d'un ton sarcastique.
En effet,
rétorque Zeus.
En effet. Si tu en doutes, demande donc à Cétébos, à Prospero ou aux Quiètes. Bon. As-tu des questions à me poser avant d'être anéanti, Hockenberry ?
En fait, oui, dis-je. À mon grand étonnement, ma voix a cessé de trembler, mes genoux de s'entrechoquer. Je veux savoir qui vous êtes vraiment. D'où venez-vous ? Je sais que vous n'êtes pas les dieux grecs.
Ah bon ?
Fait Zeus. Le sourire qu'il m'adresse, révélant des dents dont sa barbe gris-argent fait ressortir la blancheur, n'a rien de paternel. « Qui êtes-vous » insistai-je. Zeus tout-puissant soupire.
« Nous n'avons pas le temps de nous lancer dans cette histoire, j'en ai peur. Adieu, scoliaste Hockenberry. »
Il lâche la rambarde pour se tourner vers moi. Et il s'avère qu'il a raison. Nous n'avons pas le temps, mais alors, pas du tout. Soudain, l'édifice où nous nous trouvons se met à vibrer, à grincer, à gémir. L'air au-dessus d'Olympos semble s'épaissir, se mettre à ondoyer. Les chars dorés vacillent en plein vol et j'entends les dieux et les déesses encore au sol pousser des cris et des hurlements. Zeus chancelle, se heurte à la rambarde, lâche le médaillon têtu et se cramponne au mur alors même que la grande tour frémit sur ses fondations, animée d'une oscillation de 10 degrés d'amplitude au bas mot. Il lève les yeux. Voilà que le ciel se zèbre de traînées. J'entends une succession de bangs supersoniques accompagnant l'apparition de sillages de feu dans le ciel martien. Au-dessus d'Olympos, au-dessus de nos têtes, de gigantesques sphères tournoyantes, où le noir de l'espace se mêle au rouge du magma, s'ouvrent dans l'azur. On dirait des trous percés dans le ciel, et ils descendent sans cesser de tourner. Plus bas, beaucoup plus bas, je vois d'autres déchirures circulaires grandes comme des terrains de football s'ouvrir au pied d'Olympos. D'autres encore apparaissent au-dessus de l'océan au nord, s'ouvrant parfois au milieu des eaux. Des fourmis surgissent par milliers des disques terrestres, puis je comprends qu'il s'agit d'hommes, d'êtres humains. Outre les chars dorés, le ciel s'emplit maintenant de machines noires et acérées, tantôt plus grandes que les chars, tantôt plus petites, toutes d'une conception si terrifiante qu'elle ne peut être que militaire. De nouvelles traînées sillonnent la stratosphère, fondant sur Olympos telles des ICBM. Zeus lève les deux poings vers le ciel et lance un hurlement aux dieux minuscules.
« L'égide !»
hurle-t-il.
« Activez l'égide !»
J'aimerais bien m'attarder pour voir de quoi il est question et dans quel sens va évoluer la situation, mais j'ai d'autres priorités. Plongeant la tête la première sous les gigantesques jambes de Zeus, je me laisse glisser sur le marbre, j'agrippe le médaillon têtu d'une main et je l'active de l'autre.